Chapitre 33. Fardeau. Il reste cependant possible de voir nos flux et les leurs réunis. Telle fut la promesse, toujours accessible, mais en comprenons-nous le prix? La question n'est pas de savoir s'ils nous accepteront, mais si les prendre à nouveau nous oserons. Extrait du chant d'Esprène de Ceux qui écoutent. 10e couplet. Kaladin tomba avec la pluie. Il s'accrochait aux vêtements de l'assassin, blanc comme l'os, de sa seule main valide. La lame que l'assassin avait lâchée se volatilisa près d'eux, et ils chutèrent ensemble vers le sol, une trentaine de mètres plus bas. La tempête s'était presque éteinte en Kaladin. Trop peu de fulgiflammes. Soudain, l'assassin se mit à briller d'un éclat plus vif. Il a des sphères. Kaladin inspira vivement, et la flamme s'échappa des sphères contenues dans des bourses que l'assassin portait à la taille. Tandis que la flamme pénétrait dans le corps de Kaladin, l'assassin lui asséna un coup de pied. Sa seule main ne lui garantissait pas une prise suffisante. Kaladin se retrouva désarçonné. Puis, il toucha le sol. Violemment. Sans préparation. Sans possibilité de ramener ses pieds en dessous de lui. Il heurta la pierre froide et humide, et sa vision s'assombrit. Elle s'éclaircit l'instant d'après, et il se retrouva étendu sur les rochers au bas de la pente qui menait au palais du roi, tandis qu'une pluie douce l'arrosait légèrement. Il leva les yeux vers la lumière lointaine qui s'échappait du trou dans le mur au-dessus de lui. Il avait survécu. Voilà une question qui trouve réponse. Songea-t-il en s'efforçant péniblement de s'agenouiller sur la pierre humide. La fulgiflamme s'activait déjà sur sa peau, le long de son flanc droit déchiqueté. Il s'était cassé quelque chose dans l'épaule. Il la sentait guérir sous la forme d'une douleur brûlante qui se retirait lentement. Mais son avant-bras et sa main droite, faiblement éclairés par la flamme qui s'échappait du reste de son corps, étaient toujours d'un gris terne. Cette partie de lui ne brillait pas, comme une bougie morte au milieu d'une rangée. Il ne la sentait plus. Il ne pouvait même pas bouger les doigts, qui pendirent mollement lorsqu'il serra cette main contre lui. Non loin de là, l'assassin en blanc se tenait très droit sous la pluie. Il était parvenu d'une manière ou d'une autre à ramener ses pieds en dessous de lui pour atterrir avec grâce et maîtrise. Cet homme possédait un niveau d'expérience de ses pouvoirs qui faisait passer Kaladin pour un novice. L'assassin se retourna vers Kaladin, puis s'arrêta net. Il parla doucement dans une langue inconnue, avec des mots sifflants qui comportaient beaucoup de son chuintant. « Il faut que tu bouges », se dit Kaladin, avant qu'il n'invoque à nouveau cette lame. Malheureusement, il ne parvenait pas à surmonter l'horreur d'avoir perdu sa main. Il n'y aurait plus de combat à la lance, ni de chirurgie. Les deux hommes qu'il avait appris à être étaient désormais perdus. Seulement, il lui semblait presque sentir. Vous ai-je fixé par une attache? Demanda l'assassin dans un aléti teinté d'un fort accent. Ses yeux s'étaient assombris et perdaient leur couleur bleu saphir. Au sol? Mais pourquoi n'êtes-vous pas mort en tombant? Non, j'ai dû vous fixer vers le haut. Impossible. Il recula. Un instant de surprise. Un instant pour survivre, peut-être. Kaladin sentit la flamme faire effet, la tempête se débattre en lui. Il serra les dents et réussit, sans trop savoir comment, à exercer une violente poussée. La couleur regagna sa main et la sensation, une froide douleur, envahit soudain son bras, sa main, ses doigts. La flamme s'échappa de sa paume. « Non, » dit l'assassin, « non !» Ce que Kaladin avait fait à sa main, quoi que ça puisse bien être, avait consommé la majeure partie de sa flamme, et l'éclat que dégageait son corps s'estompa presque totalement. Toujours à genoux, serrant les dents, Kaladin s'empara du couteau à sa ceinture, mais sa prise était faible. Il faillit lâcher l'arme en la dégageant. Il fit passer le couteau dans sa main non porteuse. Elle devrait faire l'affaire. Il se releva d'un bond et chargea l'assassin. « Je dois le frapper vite pour avoir une chance. » L'homme en blanc sauta en arrière et s'éleva de 3 bons mètres, ses vêtements ondulant dans l'air nocturne. Il atterrit avec grâce et souplesse, et la lame d'éclat apparut dans sa main. « Qu'êtes-vous donc ? » demanda-t-il. « La même chose que vous, » répondit Kaladin. Une vague de nausée l'envahit, mais il s'obligea à paraître ferme. « Un marchevent !»«
Impossible !»
Kaladin leva le couteau tandis que les dernières volutes de flammes s'échappaient de sa peau. Une pluie fine tombait sur lui. L'assassin recula vivement, les yeux aussi grands que si Kaladin s'était changé en démon des gouffres.
« Ils m'ont traité de menteur !» hurla l'assassin. « Ils m'ont dit que je me trompais. Seth, fils Valano, Avérite, ils m'ont nommé Avérite !»
Kaladin s'avança en prenant l'air aussi menaçant que possible, espérant que sa fulgiflamme durerait assez longtemps pour le faire paraître imposant. Il expira et la laissa s'échapper devant lui, brillant légèrement dans le noir. L'assassin traversa une flaque en reculant.
« Sont-ils revenus ? » demanda-t-il. « Sont-ils tous revenus ?»«
Oui, » répondit Kaladin. Ça semblait être la bonne réponse, du moins celle qui le garderait en vie. L'assassin le regarda fixement encore un moment, puis se retourna et prit la fuite. Kaladin regarda la silhouette lumineuse courir et s'élever brusquement dans le ciel. Il se faufila vers l'est sous forme d'un ruban lumineux.
« Bourrasque !»
lâcha Kaladin, qui expira le restant de sa flamme et s'effondra. Lorsqu'il reprit conscience, Syl se tenait près de lui sur le sol rocheux, main sur les hanches.
« Tu dors pendant ta garde ?»
Kaladin s'assit en geignant. Il se sentait affreusement faible, mais il était vivant, c'était suffisant. Il leva la main, mais il n'y voyait plus grand-chose dans le noir à présent que sa fulgiflamme s'était dissipée. Il parvenait à bouger les doigts. Sa main et son avant-bras tout entier lui faisaient mal. Mais c'était la douleur la plus merveilleuse qu'il ait jamais ressentie.
« J'ai guéri, » chuchota-t-il, avant de se mettre à tousser. « J'ai guéri d'une blessure infligée par une lame d'éclat.
Pourquoi tu ne m'as pas dit que j'en étais capable ?»«
Parce que je ne le savais pas avant que tu ne le fasses, crétin. »
Elle l'avait affirmé comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Sa voix se radoucit.
Il y a des morts là-haut.
Kaladin hocha la tête. Pouvait-il marcher? Il réussit à se relever et à contourner lentement la base du pinacle en direction des marches qui se trouvaient de l'autre côté. Syl voletait nerveusement autour de lui. Il commençait un peu à retrouver ses forces lorsqu'il atteignit l'escalier et se mit à le gravir. Il dut s'arrêter plusieurs fois pour reprendre son souffle et, en cours de route, il arracha la manche de son manteau pour cacher qu'elle avait été transpercée par une lame d'éclat. Il atteignit le sommet. Une partie de lui redoutait de les trouver tous morts. Les couloirs étaient silencieux. Pas de cris, ni de garde. Rien. Il poursuivit, en se sentant très seul, jusqu'à ce qu'il aperçoive de la lumière un peu plus loin.
« Arrêtez !»
lança une voix tremblante. « Marthe, du pont 4. »
« Vous, dans le noir, identifiez-vous !»
Kaladin continua à avancer jusque dans la lumière, trop épuisé pour répondre. Marthe et Moash montaient la garde à la porte des appartements du roi, en compagnie de plusieurs hommes de la garde royale. Ils laissèrent échapper des cris de surprise lorsqu'ils reconnurent Kaladin. Ils le conduisirent vers la chaleur et la lumière des appartements d'Elokar. Il y trouva Dalinar et Adeline, vivants, assis sur les divans. Et pensait leurs blessures. Kaladin avait formé une partie des hommes du pont 4 aux bases de la médecine de guerre. Renarine était affalée dans un fauteuil près du coin, sa lame d'éclat abandonnée à ses pieds comme un détritus. Le roi faisait les 100 pas au fond de la pièce et s'entretenait tout bas avec sa mère. Lorsque Kaladin entra, Dalinar se leva et repoussa les attentions d'Et.
Par le 10e nom du Tout-Puissant, lâcha-t-il à mi-voix. « Vous êtes vivant. »
Kaladin hocha la tête, puis s'écroula dans l'un des somptueux fauteuils royaux sans se soucier d'y laisser de l'eau ou du sang. Il laissa échapper un geignement étouffé, entre épuisement et soulagement de les voir tous sains et saufs.
« Comment est-ce possible ?» demanda Adeline. « Vous êtes tombé. J'étais à peine réveillé, mais je sais que je vous ai vu tomber. »
suis un fluctomancien. » songea Kaladin tandis que Dalinar se tournait vers lui. « J'ai utilisé la fulgiflamme. » Il avait envie de prononcer ces mots, mais ils refusèrent de sortir, surtout devant Elokar et Adeline. « Sainte bourrasque, quel lâche je fais !»«
Je le tenais solidement, » déclara Kaladin. « Je ne sais pas. Nous avons dégringolé dans les airs et quand j'ai touché terre, je ne suis pas mort. »
Le roi hocha la tête.
« N'as-tu pas dit qu'ils t'avaient collé au plafond ? » demanda-t-il à Adeline. « Ils ont dû flotter jusqu'en bas. »
« Oui, » répondit Adeline, « c'est possible. »
« Après avoir atterri, » demanda le roi plein d'espoir, « l'avez-vous tué ?»«
Non, » répliqua Kaladin, « mais il s'est enfui. Je crois qu'il était surpris que nous ayons riposté de manière aussi compétente. »«
Compétente ?» répéta Adeline.
« Nous étions comme trois enfants qui attaquent un démon des gouffres avec des bâtons. Père des tempêtes, je n'ai jamais subi une rossée pareille de toute ma vie. »«
Au moins, nous avons été alertés, » concéda le roi, qui semblait secoué. « Cet homme de pont, il fait un bon garde du corps. Vous serez promu, jeune homme. »
Dalinar se leva et traversa la pièce. Eth lui avait nettoyé le visage et avait placé un tampon dans son nez en sang. Sa peau était fendue le long de la pommette gauche. Son nez brisé. Mais ce n'était sans doute pas la première fois dans la longue carrière militaire de Dalinar. C'étaient là deux plaies qui paraissaient plus graves qu'elles ne l'étaient en réalité.
« Comment l'avez-vous su ? »
demanda-t-il. Kaladin soutint son regard. Derrière lui, Adeline les étudia attentivement en étrécissant les yeux, puis baissa les yeux vers le bras de Kaladin d'un air songeur. « Celui-là a vu quelque chose, » se dit Kaladin, comme s'il n'avait pas déjà assez d'ennui avec Adeline.
« J'ai vu une lumière se déplacer dans le vide à l'extérieur, » dit Kaladin. « J'ai réagi par réflexe. »
Syl pénétra dans la pièce en voltant et le regarda avec insistance, fronçant les sourcils. Mais ce n'était pas un mensonge. Il avait réellement vu une lumière dans la nuit. La sienne.
« Toutes ces années auparavant, » reprit Dalinar, « j'ai refusé de croire les récits des témoins de l'assassinat de mon frère. Des hommes qui marchaient sur les murs, d'autres qui tombaient vers le haut plutôt que vers le bas. Au nom du Tout-Puissant, qu'est-il donc cet homme-là ?»«
La mort incarnée, » chuchota Kaladin. Dalinar acquiesça. « Pourquoi revient-il maintenant ?» s'étonna Navani, qui vint se placer aux côtés de Dalinar, après toutes ces années.
« Il vient pour moi !»
expliqua Elokar. Il leur tourna le dos, et Kaladin distingua une coupe dans sa main. Il en vida le contenu, puis la remplit aussitôt à l'aide d'un pichet. Un vin d'un violet profond. La main d'Elokar tremblait tandis qu'il le versait. Kaladin croisa le regard de Dalinar. Le haut prince avait entendu. Ce sept n'était pas venu pour le roi, mais pour lui. Comme Dalinar ne faisait pas mine de corriger le roi, Kaladin ne le fit pas davantage.
« Que ferons-nous s'il revient ?»
demanda Adeline. « Je n'en sais rien, » avoua Dalinar, qui se rassit sur le divan auprès de son fils. « Je n'en sais rien. Soigne ses plaies. » C'était la voix du père de Kaladin qui murmurait en lui. Le chirurgien recoue cette joue, répare son nez. Il avait une tâche plus importante à accomplir. Kaladin s'obligea à se lever, bien qu'il ait l'impression de porter des poids en plomb, et prit une lance à l'un des hommes postés près de la porte.
« Pourquoi les couloirs sont-ils silencieux ? » demanda-t-il à Moash. « Savez-vous où sont les serviteurs ?»«
Le haut prince !» répondit Moash en désignant Dalinar. « Le clarissime Dalinar a envoyé deux des hommes dans les quartiers des serviteurs pour faire sortir tout le monde. Il s'est dit que si l'assassin revenait, il se mettrait peut-être à tuer sans distinction. Que plus les gens seraient nombreux à quitter le palais, moins il y aurait de victimes. »
Kaladin hocha la tête, prit une lampe à sphère et sortit dans le couloir. « Restez là, j'ai quelque chose à faire. » Adeline s'affala sur son siège quand le porte-pont sortit. Kaladin ne fournit aucune explication, bien entendu, et ne demanda pas au roi la permission de se retirer. Ce foudre de bonhomme semblait se considérer comme supérieur au Palsiris. Non, comme supérieur au roi.
Cela dit, il s'est battu à vos côtés, répondit une partie de lui. Combien d'hommes, pâles ou sombres iris, résisteraient aussi efficacement face à un porte-éclat?
Préoccupé, Adeline se mit à fixer le plafond. Il ne pouvait pas avoir vu ce qu'il croyait. Il était alors sonné par sa chute du plafond. L'assassin n'avait tout de même pas pu réellement traverser le bras de Kaladin à l'aide de sa lame. Après tout, son bras semblait fonctionner parfaitement. Alors pourquoi lui manquait-il une manche ?
Il est tombé avec l'assassin, se dit Adeline. Il s'est battu, et il paraissait blessé, mais en réalité, il ne l'était pas.
Tout ça pouvait-il faire partie d'une ruse ?
Arrête, se dit Adeline. Tu vas devenir aussi paranoïaque qu'Elokar.
Il regarda le roi qui fixait sa coupe de vin, le visage très pâle. Avait-il réellement vidé tout le contenu du pichet ? Elokar se dirigea vers sa chambre, où un autre pichet l'attendrait, et ouvrit la porte. Navani eut un hoquet qui figea net le roi sur place. Il se retourna vers la porte. On avait gravé au couteau, sur l'envers du bois, des traits irréguliers formant une série de glyphes. Adeline se leva. Plusieurs d'entre eux étaient des chiffres, n'est-ce pas ?
38 jours, lut Renarin. La fin de toutes les nations.
Kaladin traversa d'un pas fatigué les couloirs du palais, reprenant en sens inverse l'itinéraire qu'il avait fait emprunter à la famille royale si peu de temps auparavant. Il remonta vers les cuisines, pénétra dans le couloir où était taillé un trou donnant dans le vide, dépassa le croisement où le sang de Dalinar maculait le sol. C'était là que reposait le cadavre de Beld. Kaladin s'agenouilla et retourna le corps. Ses yeux étaient brûlés. Au-dessus de ce regard mort figuraient toujours les tatouages de liberté conçus par Kaladin. Il ferma les yeux.
« Je vous ai abandonné, » songea-t-il.
L'homme au visage carré et aux cheveux clairsemés avait survécu au pont 4 et au sauvetage des armées de Dalinar. Il avait survécu à la damnation elle-même pour tomber ensuite ici, sous les coups d'un assassin doté de pouvoir qu'il n'aurait jamais dû posséder. Kaladin laissa échapper un gémissement.
« Il est mort en protégeant les autres, »
dit la voix de Syl. « Je devrais être capable de les garder en vie, » répliqua Kaladin. « Pourquoi ne les ai-je pas simplement libérés ? Pourquoi les ai-je entraînés dans cette tâche, si c'était de nouveau pour y trouver la mort ?»«
Il faut que quelqu'un se batte, que quelqu'un protège les autres. »
Ils en ont fait assez. Ils ont saigné plus qu'à leur tour. Je devrais tous les chasser. Dalinar peut trouver d'autres gardes du corps.
Ils ont fait leur choix, répondit Syl. Tu ne peux pas le leur reprendre.
Kaladin s'agenouilla, luttant contre son chagrin.
Tu dois apprendre quand te laisser atteindre, mon fils, dit la voix de son père. Et quand lâcher prise, tu vas t'endurcir.
Il ne l'avait jamais fait. Sainte Bourrasque, il ne l'avait jamais fait. Voilà pourquoi il n'avait jamais été un bon chirurgien. Il ne supportait pas de perdre des patients. Et à présent, voilà qu'il donnait la mort. Qu'il était un soldat? Y avait-il là une quelconque logique? Il détestait ce savoir si doué pour tuer. Il inspira profondément et retrouva son sang-froid, non sans mal. « Il peut faire des choses dont je suis incapable, » dit-il enfin en ouvrant les yeux et en se tournant vers Syl, qui se tenait debout dans les airs près de lui. « L'assassin, est-ce parce qu'il me reste d'autres paroles à prononcer ?»«
Il y en a d'autres, »
affirma Syl.
« Je crois que tu n'es pas encore prêt. Quoi qu'il en soit, je pense que tu pourrais déjà faire la même chose que lui, avec de l'entraînement. »
« Mais comment peut-il pratiquer la flutomancie ? Tu m'as dit que l'assassin n'avait pas de spren.
Aucun spren d'honneur ne donnerait à cette créature les moyens de massacrer comme elle le fait.
Les points de vue peuvent varier énormément d'un humain à l'autre, répondit Kaladin, s'efforçant de chasser toute émotion de sa voix, tandis qu'il retournait Belt face contre terre, pour ne pas être obligé de voir ses yeux ratatinés,
et brûlé.
Et si l'esprène d'honneur pensait que cet assassin faisait quelque chose de juste?
Tu m'as bien donné les moyens de massacrer des Parchendi.
Pour protéger des gens?
À leurs propres yeux, les Parchendi protègent leurs semblables, observa Kaladin. Pour eux, c'est moi l'agresseur.
Syl s'assit et entoura ses genoux de ses deux bras.
Je ne sais pas, peut-être,
mais aucun autre Spren d'honneur ne fait la même chose que moi. Je suis la seule qui ait désobéi.
Seulement, sa lame d'éclat.
Qu'y a-t-il ? Demanda Kaladin.
Elle était différente, très différente.
Elle m'a semblé ordinaire. Enfin, autant qu'une lame d'éclat peut l'être.
Elle était différente,
répéta-t-elle.
J'ai l'impression que je devrais savoir pourquoi. C'est lié à la quantité de flamme qu'il consommait.
Kaladin se leva puis remonta le couloir latéral en tenant sa lampe. Elle contenait des saphirs qui peignaient les murs de bleu. L'assassin avait découpé cette ouverture avec sa lame, puis il était entré dans le couloir et avait tué Beld. Mais Kaladin avait envoyé deux hommes en éclaireur. Oui, un autre cadavre. Ober, l'un des premiers hommes dont Kaladin s'était occupé au sein du pont 4. Les bourrasques emportent cet assassin. Kaladin se rappelait avoir sauvé cet homme après que tous les autres l'avaient abandonné sur le plateau pour l'y laisser mourir. Kaladin s'agenouilla près du corps et le retourna pour le découvrir en train de pleurer.
« Je suis désolé, » balbutia Ober, envahi par l'émotion et à peine capable de parler. « Je suis désolé, Kaladin. »«
Ober !» s'exclama Kaladin. « Vous êtes vivant !»
Puis il remarqua que les jambes de l'uniforme de Ober avaient été tranchées à mi-cuisse, sous le tissu. Elles étaient d'un gris sombre, aussi mortes que l'avait été le bras de Kaladin.
« Je ne l'ai même pas vu, » reprit Ober. « Il m'a tranché les jambes, puis il a transpercé Beld. Je vous ai écouté vous battre. J'ai cru que vous étiez tous morts. »«
Ne vous en faites pas, » les rassura Kaladin. « Vous allez vous en tirer. »«
Je ne sens plus mes jambes, » dit Ober. « Elles sont mortes. Je ne suis plus soldat, mon capitaine. » « Je suis inutile à présent. Je... »«
Non, » l'interrompit fermement Kaladin. « Vous faites encore partie du pont 4. Vous en ferez toujours partie. » Il se força à sourire. « Il va simplement falloir demander à Rock de vous apprendre à cuisiner. Comment vous débrouillez-vous avec le ragoût ?»«
Affreusement mal, mon capitaine. Je suis capable de faire brûler du bouillon. » »«
Dans ce cas, vous serez à égalité avec la plupart des cuisiniers militaires. Allez. » On va vous ramener auprès des autres. » Au prix d'un effort, Kaladin passa les bras en dessous de Ober et tenta de le soulever. Son corps ne voulut rien savoir. Il poussa un gémissement malgré lui et le reposa.
« Ce n'est pas grave, mon capitaine, » répondit Ober.
« Mais si, » protesta Kaladin en aspirant la flamme d'une des sphères de la lampe, « si, ça l'est. » Il fit un nouvel effort pour soulever Ober, puis le porta pour aller rejoindre les autres.